Bonjour, bienvenue, c'est la bande originale de votre été jusqu'à midi avec Leïla Kado Boudadi, Daniel Morin, Albert Algou et l'humeur de Tom Villa au programme. Ce matin, Jane Birkin, la bande originale de Catherine Hegel et Bruno Puzzulu et en live, Patrice, le meilleur de la bande originale. C'est parti. Bonjour Jane.
Bonjour, bonjour.
Ravi de... Bon, alors, je vais pas forcer le vouvoiement, on se tutoie dans la vie, donc je... avec ta permission, je vais continuer. Ça fait quand même un certain temps que nous nous connaissons. Jane Birkin reprend les titres les plus connus de Gainsbourg, et pas forcément les chansons de Gainsbourg que Serge avait écrites pour elle, mais que Serge a écrites, même pour d'autres artistes. Ça donne un très bel album, et en plus, surtout, accompagné d'un énorme symphonique qui a un pur son. J'espère que vous avez bien compris, mon père, pourquoi nous avons... Pardon, Maréchal, oui. Je suis troublé.
Le père Albert est malade.
Oui, c'est pour ça.
Non. Non, il
prépare moi une petite fête pour moi.
Ah, c'est gentil. Il sera là demain, je crois, le
père. Une petite sauterie.
Ouais, ça s'appelle un enterrement.
Maréchal, avez-vous compris pourquoi Jane Birkin était notre invitée?
Affirmatif, mon cher Nagui, bien sûr que je sais pourquoi nous invitons Madame Jane Birkin.
Non, Jane Birkin.
Non, en français, on est chez nous, on prononce toutes les lettres. D'ailleurs, je tiens à saluer tout de suite votre courage, Madame Birkin. Je dis bien votre courage, vous qui, malgré le Brexit, décidé par vos compatriotes Rosebif, avez choisi de ne pas regagner la perfide Albion et de rester chez nous, en France, chez les mangeurs de grenouilles. De demeurer chez nous, quitte à être raillé à cause de votre accent. À ce propos, Nagui, qui vous mouillait la compresse à l'instant, j'avoue avoir été choqué, Nagui, par votre réaction.
Ah bon ?
Pas plus tard qu'il y a 5 minutes, quand vous êtes exclamé en découvrant sur votre fiche le nom de notre invité. Vous avez dit, je vous ai entendu, je vous cite, « Quoi ? Jane Birkin ? Bon Dieu, on aurait pu me prévenir. Ça fait presque 50 ans qu'elle est en France et elle parle toujours le français comme une vache espagnole, mettons au masculin ce qui est au féminin, à croire qu'elle le fait exprès pour se donner un genre, petite plaisanterie. Hein, ça. Et quand je dis tout ça, avez-vous ajouté, Nagui ?
Non.
Je sais de quoi il en retourne. Quand je suis arrivé d'Alexandrie, je parlais avec un très fort accent égyptien qui m'a alors valu le surnom de Dalida, que me donnèrent mes collègues transformistes dans la boîte de Cannes de Nefertiti, où j'ai fait mes débuts chantant Bambino.
C'est vrai.
Et vous avez conclu, Nagui, franchement, la Birkin, c'est une douleur de l'interviewer. Pourtant, je vais m'efforcer de rien laisser paraître, mais pour que je sois à l'aise, faut me mâcher le travail, Maréchal, et me faire le pitch de son accent.
Quel salaud, le pitch, on dit, faites un effort quand même.
Je paye. Voilà comment les choses se présentaient avant cette émission, Madame Birkin. Alors, pour votre information, Nagui, c'est simple et clair comme de l'eau de bidet. Je vous le dis, Nagui, Jane Birkin vient pour des reprises. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je vous le répète. 20 reprises d'un certain Serge Gainsbourg, sublimé en version symphonique. Et d'ailleurs, Madame Birkin, je voulais profiter de votre venue pour vous demander conseil. Car en suivant votre exemple, je compte enregistrer, accompagné par un orchestre symphonique de la Légion étrangère, un album de reprise de tous mes grands tubes, dont « Autant qu'un contre les Viettes ». Voilà, du boudin. Des chansons qui, hélas, ravivent des souvenirs aussi douloureux que la plaie que les Viettes m'affligèrent au croupion. Ce qui me contraint à quitter la table tout de suite, aidé par mon ami Albert Algou. Oui, venez, Maréchal. Le seul de votre bande de goujats à respecter ma différence et à se montrer prévenant avec moi. Et je vous souhaite quand même une bonne émission. Allez, venez, Maréchal.
Merci.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Je voulais t'accompagner, mon cher Maréchal, avec le symphonique.
Ah, oui, j'étais très ému.
C'est beau.
Vous les connaissez tous.
C'est comme une musique de film en fait. On est dans un film, on voit, n'importe quoi, Barry Lyndon ou une grande production.
Ou les requins qui avancent.
Ouais. C'est ça, les dents de la mer, mais gentils requins.
Jane Birkin, en fait, je vais avouer une chose, ayant une partie, la moitié de ma famille anglaise, je peux te garantir, j'embrasse ma belle-mère, les Anglaises, c'est comme ça, et ça peut durer des décennies, elles ont toujours le petit accent qui vient
et qui fait leur charme,
exactement, et que l'on aime. Jane, je ne peux pas commencer cette émission en parlant directement de cet album, en parlant directement de votre travail, sans vous demander ce que vous avez ressenti sur ce qui est tristement arrivé à Londres, parce que c'est votre pays qui a été touché. J'imagine que c'est encore plus particulier quand on est natif comme vous d'Angleterre. oui. De voir ces horreurs.
Oui, oui. En fait, comme tout le monde, j'ai regardé très tard hier soir et je pouvais qu'admirer l'attitude des Anglais sur le pont d'aller aider les personnes qui ont tombé, le policier qui n'était pas armé comme les policiers anglais. Ah, dans mon enfance, n'était pas armé du tout. Maintenant, un petit peu, mais moi, j'ai toujours
mais
trouvé
tous,
ça.
Mais pas tous, en le cas.
Non, j'ai trouvé ça. Ouais. Je trouve ça formidable parce que du coup, votre premier cri, c'est ah non, c'est pas lui. C'est voilà. Je trouve
dans une ville où le maire est musulman, dans une ville où le métissage est quotidien et normal. Enfin, personne
oui,
ne remarque.
Le membre de parlement
personne.
Était noir. Ben et oui. Est allé l'aider.
Tout le monde vit en parfaite entente, mais un fou.
Et puis non hystérique quoi. Mais évidemment ça fait triste. En fait, ils ont tous dit c'est juste triste.
Alors ce symphonique avec lequel vous chantez, lui c'est un symphonique qui vient de Pologne, hein, c'est ça ? L'orchestre
oui,
symphonique ?
À Varsovie.
Qui a eu l'idée, la bonne idée d'ailleurs, la riche idée, de vous convaincre, parce que je vous connais aussi par rapport à tous les projets autour de Serge Gainsbourg, vous dites pas oui tout de suite, vous prenez le temps de réfléchir, vous demandez, et si Serge était là, est-ce qu'il aurait dit oui ou pas ? C'est ça la première question.
C'est pour ça que je n'aurais pas pu même le concevoir sans Philippe de Richomme, qui était le directeur artistique de Serge.
Et moi,
depuis Melody Nelson, il a été avec nous quand même. Et il est une sorte de garantie, tu sais, comme pur bœuf.
Le gardien du temple.
Ouais. Je sais qu'il fait gaffe que je ne fais pas de conneries, que je ferai les choses bien. Parce que parfois, par enthousiasme, je peux faire une tonne de bêtises. Et si Philippe est avec moi, je sais qu'il a un savoir de l'œuvre de Serge pour pouvoir me trouver des idées originales sur les 25 chansons que je chante. Qu'il aurait la meilleure idée pour ce qui pourrait aller avec une symphonique ou non. Et aussi, j'ai eu Nobuyuki Nakajima, qui est le japonais. Bah oui, parce que c'est un compositeur, en fait. Donc, entre chaque chanson de Serge, on navigue dans les eaux troubles, comme tu as dit tout à l'heure. On sait pas vers où on va. Moi non plus, d'ailleurs. Et puis, tout d'un coup, tu reconnais tel un vieux pote. Ah oui, c'est les deux sushis. Ah oui, c'est... Alors, ça prête une intrigue parce que c'est assez banal de vouloir juste chanter avec un philharmonique. Ça aurait pu être... Voilà, on aurait pu baisser le philharmonique pour laisser passer ma petite voix, etc. Et là, grâce à Nobu, je suis une sorte d'instrument parmi d'autres.
Exactement. Ouais, c'est une très belle image, c'est exactement
et c'est,
ça.
C'est vraiment... Ouais. Ça, c'est Nobu. Ça, c'est bien japonais.
Les deux sushis, ce n'est rien dévoilé du tout. C'est dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les deux sushis, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les deux sushis, ce sont des contrats résiliés qui, comme des parisiens, enfilés.
C'est tort. J'adore parce que ça file la chair de poule, c'est extrêmement efficace, c'est très bien arrangé, bien enregistré. Ta voix va extraordinairement bien avec.
Et puis ça met la poésie de Gainsbourg en valeur. Des textes tout à fait formidables.
Et puis il a toujours aimé la musique. Il a toujours aimé la musique classique, évidemment. Il s'en est souvent inspiré dans ses compositions. Je sais pas même si à la maison il y avait beaucoup de classiques dans cette maison au mur noir, au piano au centre. Il y a pas beaucoup de musique classique.
On rigolait plutôt. Non, je pense qu'il a fait son éducation avant moi. Donc, quand on était à la maison, je m'en souviens pas d'avoir été le matin jusqu'au soir bercé par Chopin. Non. Par contre, il avait la main de Chopin, une moulure sur sa table basse, une photo de Chopin. Et voilà, c'est une. Pour chaque fois qu'il écrivait un disque pour Bambou, ou Charlotte ou moi ou à propos de Bardot, Initials BB, il utilisait les musiques classiques comme s'il voulait nous donner le meilleur.
C'est un cadeau. Il faisait qu'avec les personnes qu'il aimait, qui étaient très proches.
Oui, comme s'il y avait une sorte de panique de nous donner le meilleur, ce qui montrait une certaine candeur de sa part, qui est tout à fait touchant. Et voilà.
J'avoue, j'en ai pas fait par vous, mon amour. avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant le j'avenir de nous. Nous aimions le temps d'une chanson.
Jane Birkin est en tournée avec cet album, ce symphonique. Vous avez déjà donné des concerts à Montréal, Tokyo, Hong Kong. Elle sera le 12 avril à l'Auditorium de Radio France avec l'Orchestre National de France. Le 11 mai à Monaco, à l'Opéra Garnier de Monte-Carlo avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Évidemment, la javanaise, il a fallu faire des choix, parce que le répertoire étant absolument... Je sais même pas si quelqu'un a compté un jour, on demandera à Bertrand Dical le nombre de chansons écrites par Serge Gainsbourg, que ce soit pour vous, pour ses enfants, pour ses égéries ou pour lui. Mais en tout cas, c'est un nombre considérable. Comment choisir la chanson? Est-ce qu'il fallait choisir la chanson qui allait le mieux avec un philharmonique, avec un symphonique?
Je crois que c'est ça. Profondément, c'est ça. Et puis, il y en avait... un ou deux que je voulais, moi, qui n'étaient pas là, que j'avais chanté juste avant avec Va Japan, mais une chose entre autres, par exemple, il me semblait nécessaire à cause du texte. Et puis d'autres qui me semblaient moins intéressants.
Alors, enfin, on va écouter un tout petit peu d'une chose entre autres, ce qui n'est pas la plus connue, ça, on
non,
est d'accord.
Une chose entre autres que tu ne sais pas. Tu as eu plus qu'un autre les meilleurs de moi. Est-ce ta faute? Peut-être pas.
Pourquoi il était important que sa chanson y soit? Pour le texte?
Oui, parce que dans le texte, c'est une chose entre autres que tu ne sais pas. Tu as eu plus qu'un autre le meilleur de moi. Et c'est vrai, je crois. Comme des chansons qu'il m'avait écrites depuis notre séparation étaient des messages de blessures ou de reproches, celle-ci était très juste. C'est une petite gifle pour moi. Tu te prends pour quoi? Je suis passée à autre chose. J'étais à toi, maintenant je suis à d'autres, je ne te suis pas. Mais je pense qu'il m'a donné le meilleur de lui dans une curieuse affaire qui était de garder pour lui-même les chansons protestateurs, rigolos, la Marseillaise, choquant, changer son nom, Gainsbourg. Et puis, quand même, d'avoir un désir de s'exprimer de sa manière fragile comme un bas de soie. Et ça, mais il me les a donnés. Il n'y avait aucun contrat entre nous, aucune raison. J'étais partie. Et psychologiquement, j'aimerais bien savoir comment ça se fait. Mais ça nous a réunis jusqu'à sa mort, en fait, où il a écrit « Amour défunte », qui était encore une fois pas un truc sentimental du tout, parce qu'un monde feigné, un monde de la mort. Et voilà, c'était des poésies d'une telle... une telle profondeur qui correspond absolument à tout le monde maintenant. Et un jour, d'autres personnes chanteraient ces chansons qui étaient inspirées par moi, de ce que j'avais fait. Et ils seront peut-être encore plus beaux, comme « Ne me quittez pas » est devenu peut-être plus beau encore quand c'était chanté par d'autres. Mais peut-être je suis le dernier témoin de ça, qui fait que quand on est à la réunion, l'orchestre n'a pas joué tout de suite. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
Un problème.
Et puis le chef d'orchestre m'a dit, c'est parce qu'ils sont impressionnés. J'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'ils étaient très jeunes, ils en avaient de 19 ans, de 18 ans. Et bah, c'était à cause de moi, mais à cause de moi et Serge, en
fait.
Bien sûr. Et j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé que ça, c'était un peu un peu historique pour ces gamins.
Ah, mais c'est culte, oui, carrément, oui.
Noyé sous les flots de Pontiac, de Cadillac, de Bentley.
Sur cet album, il y a entre autres Babylon in Babylon, il y a aussi la valse de Melody Nelson.
Le soleil errant et le banc ne roussit, mais tout bouge au bras de Mélodie.
Ou encore Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve.
Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Que le ciel azuré virouve. Pensez où passer à autre chose. Faudrait mieux.
Celle qui est la plus surprenante peut-être en symphonique, le Requiem pour un con.
Écoute les orgues, elles jouent pour toi.
Parce que c'était un tempo très hip-hop, hein, plutôt pour l'époque, c'était très avant-gardiste. Quoi, la boucle des percussions, qui était une boucle africaine.
Ça, c'est beau, parce que Philippe les demande de se mettre debout, les cuivres. Et ça, c'est vraiment très chevaleresque.
Spectaculaire, ouais.
Oui, spectaculaire.
Sur l'album, il y a évidemment la chanson de Prévert.
Cette chanson, les feuilles montent, ces fins de mon souvenir.
Alors je m'excuse d'avance pour tous ceux qui voudraient les écouter en entier. Vous avez qu'à prendre l'album, hein. Mais là c'est juste pour vous présenter tout cet album. Les deux sushis, merci, que vous l'avez entendu tout à l'heure. Pull Marine que vous reprenez pour la première fois.
Oui.
Dans le petit pull marine.
Et qui vous va très bien.
J'ai déchiré au cou, j'ai pas voulu recoudre. Tu m'avais donné, je me sens tellement abandonné.
La Gadoue, vous l'aviez déjà reprise, mais dans une version plus pop rock, même avec les négresses vertes, si vous avez des souvenirs. Et là c'est avec le symphonique.
Abominable. Un petit côté zonflegui, non?
Ah, tu peux pas te babouger un peu quand on entend ça?
Là, tu zouques un peu.
Je t'en prie. J'ondule mon corps.
Oui, voilà.
C'est ces hanches artificielles qui bougent dessus.
Il les a activés.
Il y a l'anamour aussi.
Je t'aimais, je crains de m'égarer. Et je sème les grains de pavot sur les pavés.
Et bien sûr, la javanaise. Incontournable. Non. Vous êtes impressionné encore quand vous chantez des chansons de Serge Gainsbourg? Dans quel sentiment vous êtes?
Non.
La nostalgie?
Oui et non. Ce qui est touchant, c'est quand les gens sont avec vous. Donc là, à la réunion, il y avait 5000 personnes à l'extérieur, la nuit. Et là, d'avoir 5000 personnes qui chantent la javanaise, ça, c'est irrésistible. Enfin, c'est tellement une surprise.
Est-ce qu'on a autant de liberté lorsqu'on est avec un symphonique et en public, justement, parce que vous êtes avec une, on va dire, un groupe rock, guitare, basse, batterie et clavier, et les gens se mettent à chanter la javanaise. Vous faites un petit signe à votre groupe, ils arrêtent un tout petit peu, ils font un break, les gens chantent, vous faites un petit signe, on reprend, bing, ils reprennent, poum poum tchak, et c'est parti. Là, avec un symphonique, comment
gérer ça? Locomotive.
C'est ça.
Et si tu rates le début, surtout parce que quand les gens chantent, ils sont. Mais là, c'est
pas possible.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Voici en live notre invité Patrice qui vient nous présenter son nouvel album. L'album s'appelle Life's Blood, le sang de la vie. Et le voici en live avec Burning Bridges.
Clap for me. carry on. And if I find you in the dust, I clean you up and call the bus. We'll be home.
La bande originale, le best-of.
Voici l'humeur de Tom Villa.
Ce matin, les copains, je viens de me rendre compte que le couple présidentiel Macron est un couple comme les autres. Vous savez, ils ont intégré l'Élysée le dimanche 14 mai dernier, vous allez vous en rendre compte. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Élysée, c'est une charmante résidence en plein Paris. Bâtisse 18e, 12 000 mètres carrés, jardin orienté plein sud, centrale, proche tout commerce. Pratique quand on veut voir le défilé du 14 juillet ou l'arrivée du Tour de France. Bref, comme on le dit dans le Figaro immobilier, un bien d'exception. Mais les Macron n'ont pu emménager que cette semaine, parce que pour le dire poliment, il y avait un peu de rangement à faire. Car d'après le journal d'investigation Gala, François Hollande aurait laissé le palais présidentiel dans un état de délabrement très avancé.
Tu veux dire quoi, c'est sale ?
Je vais vous expliquer. Pourtant, après sa non-candidature en décembre dernier, on aurait pu imaginer qu'il avait 5 mois pour rendre la baraque propre. Et c'est toujours con de laisser son chèque de caution juste parce qu'on n'a pas changé le pommeau de douche et changé les joints de la baignoire. C'est ballot. Alors on l'accuse de ne pas l'avoir entretenu, l'Élysée, et en même temps, on imagine mal Hollande aller personnellement le dimanche au Leroy Merlin de Beaubourg, acheter de la Deluxe Valentine et mettre un coup de peinture avec Philae le Labrador qui joue avec les pinceaux entre deux préparations de réunion avec Merkel.
Tu vois, avant l'état des lieux.
Et en même temps, ça la fout mal. C'est la maison des Françaises, ça représente notre pays. Déjà qu'on a l'image de crado quand on va à l'étranger, tu reçois Merkel à bouffer, tu peux mettre un coup de Swiffer. François, c'est pas une toile d'araignée dans le coin là-bas ? Non, non, vous inquiétez pas, Angela, les araignées dans la maison, c'est sain. Alors ça, c'est la phrase des mecs qui font pas le ménage. Non, les araignées, c'est sain, oui. Les grosses fourmis, ça entretient le parquet. Voilà. Non. Alors d'après Gala, on apprend que le plus gros problème de l'Élysée qu'ont rencontré les Macron, ce sont les fuites d'eau.
Bah, c'est un vieux bâtiment.
Oui, mais enfin quand même. Et en même temps, est-ce qu'on est surpris qu'il y ait des fuites d'eau après le départ de François Hollande ? Hollande, il s'est pris des litres de flotte sur la truffe pendant 5 ans. C'est normal qu'il laisse un petit dégât des eaux dans la salle de bain. En plus, comment ça a pu se produire une fuite d'eau à l'Elysée ? Attends, Julie, viens, on refait comme dans le film là, qu'on a vu hier soir. Bonjour, mademoiselle, c'est le plombier.
Merde, Julie, va éteindre l'arrivée d'eau. Comment ça, elle est où? Mais quelle est con. Dans le garage, entre mon scooter et le bouton nucléaire. Voilà.
Non, mais ce qui a aussi retardé l'arrivée des Macron, c'est trouver la bonne solution pour se reposer. Comment bien se reposer à l'Élysée? Parce que pour pouvoir dormir sereinement dans leur nouvelle chambre à coucher, d'après gala encore, Emmanuel et Brigitte Macron ont changé le matelas de la chambre présidentielle. Et ça, on les comprend. Disons que quand tu vas à l'hôtel, tu te doutes de ce qui s'est passé avant ta nuit, mais tu n'as aucune preuve. Là, j'imagine Brigitte en train de lire Closer chez Coiffe Mode au Touquet et voir le défilé. Chérie, je te préviens, dès qu'on arrive, on change le matelas. Je vais sur Conforama.fr, je vais commander un Epeda Multispire à ressort en sachet. En plus, coup de cul, on t'accusera pas de trouver le budget français. La livraison est offerte jusqu'au 24 mai. Donc voilà, ça tombe bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit pour l'État de l'Élysée ou pour l'État du Parti Socialiste, a priori, François Hollande, il va pas récupérer sa caution. Bonne journée.
Merci, David.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
La bande originale de Catherine Yeager et Bruno Puzulu, en attendant qu'il soit au théâtre de l'atelier pour votre maman à 19h. Nous avons pris quelques dates de vos carrières et rejoint peut-être des expériences communes ou des dates communes en tout cas. Par exemple, Bruno Puzulu, en 1967-69, vous écoutiez... Je ne sais pas si vous écoutiez ou vous entendiez Pavarotti, c'est la musique familiale, ça, Pavarotti?
Oui, papa...
Parce que vous êtes né à ce moment-là, vous êtes né en 67.
Oui, papa italien, il écoutait souvent cette chanson-là et je l'entendais la chantonner. Donc,
Ce qui fait que, pardon, il faut dire Puzulu ou Pozzolo?
Pozzolo.
Pozzolo, d'accord, l'accent tonique...
Ouais, est le U, c'est où en italien?
Oui, c'est pour ça que je pose la question.
Ouais.
Mais vous acceptez maintenant que tout le monde dise Puzulu?
Ça vous pique? Bon, non, à la française ou à l'italienne, peu importe.
Bah, italienne, il faut mettre l'accent tonique au bon endroit. Vous êtes né en Normandie, vous avez grandi dans un petit village. Est-ce que l'image de tout petit déjà, je voulais être comédien et réel
non,
ou pas?
Non, je voulais plutôt jouer au foot ou...
Faire de la boxe.
Ou faire de la boxe, mais au foot, très vite, on se rend compte si on est fait pour une carrière ou pas. Et puis, ensuite, j'ai un frère instit qui a fait du théâtre amateur, et puis je suis allé le voir jouer avec mes parents, et ça m'a plu.
Ouais. Mais en fait, le lien, est-ce que c'était les combats? Parce que vous aimiez la boxe, c'était la grande mode des Bruce Lee.
Des Bruce Lee, j'allais voir tous les Bruce Lee au cinéma.
L'ancêtre de Jackie Chan, pour situer ceux qui ne voient
voilà,
pas qui est Bruce Lee.
L'ancêtre.
La dame du cinéma me donnait les photos, les affiches, et c'est aussi en allant au cinéma que j'ai pris goût à ce métier, certainement. Oui. Donc, grâce à mon grand frère et à Bruce Lee. C'est pas mal.
Aujourd'hui, vous pratiquez
oui,
la boxe
encore? Oui, je fais de la boxe thaï avec mon entraîneur, Guillaume Kerner, oui, dans le 18e, ouais, toujours.
Ça vous défoule?
Moi, j'en fais
comme un
vieux, hein, maintenant, en faisant attention de ne pas me blesser, mais c'est quelque chose que je fais depuis l'enfance, donc je continue en me faisant croire que je suis encore capable.
Et c'est vrai que si ça marche pas pendant une première, vous la pratiquez sur votre partenaire. J'ai entendu ça.
Hein. C'est d'une violence dingue.
Oui, parce qu'on a le droit au coude, au poing, au genou, au pied, et puis au corps à corps, aux projections.
Oula, c'est du free fight.
Vous avez compris, Catherine?
Faut pas avoir un trou, hein, Catherine.
J'ai eu un frère. Je connais le point faible.
Oui, mais j'ai toujours une coquille en répétition.
Catherine n'a pas dit où c'était.
Catherine Yeagel, en 1969, entre à la Comédie Française et vous écoutiez John Baez. Petite parenthèse sur John Baez, là c'est une reprise de Bob Dylan, ça s'appelle North Country Blues. Il y a un nouveau Bob Dylan qui arrive et ça sera demain la sortie de ce triple album qui s'appelle Triplicate de Dylan. Et ce soir à 21h, Mishka Assayas dans Very Good Trip vous proposera des inédits de ce nouvel album, trois en l'occurrence, que vous pourrez écouter sur Inter. Mais revenons donc à John Baez, vous aviez une époque...
j'ai fait 68, hein, excusez-moi.
Je vous en prie.
J'ai occupé le conservatoire. Le bureau du Dirlo et
vous avez manifesté. Vous saviez pourquoi vous manifestiez?
J'étais à Faune, tout le monde était à Faune. Bien sûr, je savais. Enfin, je savais. J'avais un copain qui pensait mieux que moi, donc je le suivais. Et je disais, on vote quoi? Et ce qui votait, je le votais. Quoi. Mais après, bon, on était tous un peu politisés quand même.
Non mais j'entends, mais est-ce que la jeunesse de 68 qui manifestait avait un véritable idéal, savait exactement ce qu'elle faisait, ou c'était un mouvement, comme vous dites, de foule, et on, finalement c'était une mini-révolution, on foutait le bordel, et c'était drôle.
Il y avait quand même évidemment un idéal de... de liberté, enfin, rendez-vous, vous n'avez pas connu, mais De Gaulle, c'était quand même la chape, voilà, et d'indépendance, enfin, des idées de gauche, pardon, on a le droit de le dire.
Oui, c'est pas un grand mot, toujours pas.
Voilà, et particulièrement même aussi dans le monde de la culture. Il y avait quelque chose à faire avancer et à dépoussiérer. Et donc, John Baez, vous avez choisi celle-là, mais c'était aussi une parole de liberté.
Des chansons à texte comme toutes celles de Dylan, absolument. Voilà. Oui. Protest song, comme on les qualifiait. Vous êtes resté 40 ans à la Comédie française.
Oui.
40 ans à la Comédie française. Oui. Au départ, c'était.
Une sorte de monument historique, là, vous vous rendez compte.
J'ai l'impression. Ouais, non, mais c'est 40 ans, c'est très impressionnant.
C'est
la troisième fois que tu dis 40 ans, arrête.
Parce que c'est. Je pense qu'il y a dû y avoir aussi des moments de doute. Il n'y a pas eu que du plaisir à la Comédie française.
Écoutez, s'il n'y avait pas eu que du plaisir, j'en serais parti. Il y a bien sûr des moments forts, des moments moins forts. C'est dans une vie professionnelle, c'est normal. J'ai des spectacles qui vous emballent, d'autres qui ont dit bon, je le fais, mais c'est pas terrible. Enfin bon, bref.
Ça dépend des rôles qu'on vous donne.
Ça dépend des rôles, ça dépend des metteurs en scène, ça dépend de pas mal de choses. Mais moi, je suis toujours resté en pensant si ça me plaît pas, je m'en vais.
Et c'était un rêve que d'y rentrer quand vous étiez au conservatoire, vous ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai même demandé. Qu'est-ce que mon père m'a engueulé d'ailleurs ce jour-là.
Vous avez hésité à rentrer à la Comédie.
André Claveau t'a engueulé aussi.
Oh ben non, c'est fini heureusement. Mais j'ai demandé 8 jours de réflexion à l'administrateur.
Ah ouais. En termes de motivation, c'est sûr qu'ils
vont. Et puis après, quand on m'a proposé le sociétariat, je l'ai refusé.
Vous voulez rester pensionnaire.
Ben parce que je voulais pas signer 20 ans et je suis resté 40 ans. Mais c'est pas pareil.
Ouais, je comprends.
Signer 20 ans, je trouvais ça artistiquement, humainement, je ne savais pas quel serait mon désir ni le leur. Et donc, à cause de moi, les statuts ont changé.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes nommé, c'est 5 ans. Ce que je trouve artistiquement juste. C'est 5 ans renouvelables.
Comme la Légion.
Vous l'avez faite ?
Oui, bien sûr, évidemment, ça va, c'est ganache.
C'est ce que je reconnaissais ça un petit peu au tatouage. Mais donc, c'est grâce,
oui, c'est plus
grâce
juste,
à moi, c'est 5 ans, ce que je trouve mieux.
Oui.
Et à partir de 30 ans de maison, c'est tous les ans.
Ah, comme
pour
ça,
réfléchir, pour se...
pour être viré ou rester.
Mais ils vous ont viré.
Mais bien sûr qu'ils m'ont viré.
Et ça vous a fait de la peine.
Sur l'instant, oui.
Et pour quelle raison?
Mais Bruno aussi, moi je ne travaille qu'avec les acteurs virés de la Comédie française.
D'ailleurs, on est 3 virés.
Oui, d'ailleurs, on est 3 virés sur votre maman.
Mais c'est incroyable qu'ils vous aient viré au bout de 40 ans.
Une troupe.
Et pour quelle raison ils vous ont viré? Parce que nous, extérieurement, c'est difficile de comprendre ça.
C'est incroyable.
Mais je ne sais pas. Je crois, si on,
bah, si, on a dû vous dire quelque chose.
Non, on m'a rien dit.
Ah, c'est terrible.
C'est incroyable, c'est cette histoire.
On m'a rien dit, mais je crois que c'est parce que j'étais devenu doyen, pas par volonté. C'est parce que les autres étaient morts. Et vous savez, le doyen, c'est pas forcément celui qui a le plus de talent. C'est celui qui est là depuis le plus longtemps dans la maison.
Et on voulait pas de vous en doyenne, c'est quoi la responsabilité?
Je crois que c'est à cause de... Enfin, il y a toujours un côté un peu politique dans cette maison, et j'ai une assez grande gueule.
Donc c'était perturbant pour
disons que je
c'est pas maîtrisable.
C'était pas l'idéal de doyen mamie gâteau. Non, oui. C'était pas ça.
Et vous Bruno, pourquoi la comédie vous a dit au revoir?
Oh, c'est très alors on a
à cause de Johnny.
On a donné des prétextes de congé pour tourner, mais quand on demande un congé, on fait une demande, s'il est accepté, on le prend, s'il est refusé, on le prend pas. Donc c'est oh voilà, il y a certaines, il y a une ou deux personnes auxquelles je serrais plus la main à la Comédie française parce que ça a un sens de serrer la main à quelqu'un. Et puis quand ces personnes se sont retrouvées dans le comité, m'ont dégagé quoi. Bon voilà, mais la Comédie française, je l'aimerai toujours. Et puis j'ai été très blessé d'en partir, mais voilà, ça remet pas en cause la Comédie française qui m'a engagé la première, qui m'a donné du travail et vraiment, la maison, je l'aimerais toujours.
Et vous suivez le travail d'Éric Ruff en ce moment, qui est le patron du français
Ben oui, on reçoit des, moi je reçois tout.
Vous allez voir les pièges.
Excusez-moi, je suis secrétaire honoraire.
Vous êtes d'accord.
Excusez-moi.
C'est quand même bizarre, pardon, mais quand on n'est pas dans ce milieu-là comme nous, d'être pendant 40 ans dans une boîte, d'être viré sans trop savoir pourquoi on est viré, mais ça sent plus
ça arrive à plein de gens.
Ah non, je vous en supplie. Pas le cabinet noir, non.
Bon, allez, gris clair. Qui a décidé comme ça, en disant, bon, elle en doyenne, on n'a pas envie, donc on la vire. On vous explique même pas pourquoi ni comment, il n'y a pas de rendez-vous préalable. Enfin, c'est pas un licenciement.
Jouais le soir.
C'est une violence.
Avec des membres du comité qui m'avaient viré. C'est pas facile, ça.
C'est incroyable. Et c'était quelle pièce? Parce qu'il fallait.
Ce qui est bien, c'est que.
Tartuffe, non?
Non. C'était les Joyeuses Commères de Windsor.
Ah ouais, en plus.
C'est génial.
En plus.
Et donc.
Non, mais il y a quelque chose. Je raconte ça parce que j'étais là, mais. Vous savez, moi, j'ai joué dans beaucoup de circonstances, comme beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire malade, bien sûr, mais j'ai joué aussi le soir de la perte des miens, le soir. Voilà. On joue. Bon, cette circonstance-là, je l'ai vécue une fois, je parle d'être viré. Et j'étais quand même un petit peu en pilotage automatique, vous voyez ce que je veux dire. Et dans le rôle que je jouais dans ce spectacle, je jouais une nourrice et mon maître disait « Vous, je vous vire ». Et il faisait partie des membres du comité qui me virait. Et mon inconscient a parlé, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit « Ça, c'est fait ». C'était absolument pas dans mon texte. Et je me rappelle.
Et là, vous avez été reviré pour faute grave.
Mais ça m'a échappé.
Ça a dû le pétrifier sur scène de vous entendre répondre ça.
Comment on devient sociétaire honoraire d'un établissement qui vous a licencié? Comment il justifie cet honneur-là? Oui, mais enfin, donc.
C'est pas un
honneur. D'un côté, on vous vire, d'un autre côté, on vous nomme sociétaire honoraire. Enfin, c'est bizarre, non?
Parce que si vous êtes nommé sociétaire honoraire, ce qui peut pas être le cas de Bruno.
Trop
moi,
jeune.
Si, non, c'est pas ça, c'est qu'il n'est pas passé sociétaire. Si ils me demandent, ce qu'ils ont déjà fait, mais non, je peux rejouer dans la maison, comme l'horaire.
Et donc ils vont déjà demander.
Oui, mais j'ai dit non.
Ça sera toujours non la réponse à cette question.
Ah, je préfère vendre des slips. Non.
Donc là, c'est plus une question de rôle ou de partenaire.
Ça a fait mal. Ouais. La dernière fois que j'ai joué, j'ai regardé le plateau en me disant c'est la dernière fois que t'es là. J'ai fait. C'est un petit peu, comment vous dire, c'est comme un appartement de famille. Mmh. Et soudain, vous quittez cet appartement et vous fermez pour la dernière fois la porte. Vous aimeriez pas y retourner. Ouais. Quoi.
En 1988, Catherine Yeagel était dans La vie est un long fleuve tranquille. Jouer dans ce film avec un énorme succès populaire et professionnel aussi, puisqu'il y a eu la reconnaissance des prix de vos pères, en l'occurrence avec des Césars, et je crois qu'il y en a eu 4 qui ont été remportés par ce film. Je parlais du film, oui. Le cinéma est venu à vous, c'est vous qui êtes allé à lui, est-ce que c'est un agent qui vous a proposé ce rôle? Comment et pourquoi vous n'étiez pas allé au cinéma plus tôt?
Parce que j'avais pas d'agent.
Il faut un agent pour être au cinéma.
Oui. J'avais pas d'agent, je n'en avais pas besoin. Et je me souviens très bien, je faisais une pièce de Coltès à Nanterre avec Chéreau. Mmh. J'avais pris mon congé. Non, même pas. C'était coproduit par la Comédie Française. Et j'étais donc pas en congé. Et Dominique Besnoir, qui était un copain depuis longtemps, était l'agent d'un des acteurs du spectacle, Nico Fée. Et il est arrivé, il m'a dit, t'es génial et tout ça. Enfin bon, je vais pas l'imiter.
Ouais, c'est pas mal quand même.
Bon, ouais, ça, je très très bien le faire. Mais il était formidable et tout. Je dis, eh ben oui, ben alors prends-moi. Il m'a dit, quelle bonne idée, et voilà. Et c'est avec Dominique, qui maintenant n'est plus agent, mais producteur, comme vous le savez. Ça a été mon premier agent et c'est lui qui m'a
permis d'avoir ce rôle dans La vie est un long fleuve tranquille.
Oui.
D'accord, très bien.
Voilà.
1990, vous rentrez, Bruno Puzulu, au Conservatoire National d'Art Dramatique, et là vous écoutiez l'excellent Celentano. Il a le truc, lui. Hein. Ah, il a le truc.
Non dice niente. Ai mister Aide.
Il faut quand même rappeler que Adriano Celentano est une énorme star en Italie. Énorme.
Mais pas seulement. On le connaît quand même.
On le connaît pour Please and Call the National Cusol, pour I Want to Know, pour Stand By Me, mais Preghero, qu'il avait fait aussi beaucoup de succès. Ça fait longtemps qu'il ne chante plus. Il est devenu animateur télé, très politisé.
Oh, il chante encore. Il va encore à San Remo au festival.
C'est chanter. Vrai
ah oui, il chante encore, mais ses albums aujourd'hui sont assez noirs. Contrairement à tout ce qu'on entendait avant, où ça bougeait un peu, et sont assez noirs.
Ah ouais, il avait une dégaine, enfin il a toujours une dégaine incroyable.
Il a presque 80, hein, Celentano, oui. Aujourd'hui. Hein,
J'adore ce mec.
Il est beaucoup plus âgé que Johnny.
Qu'avez-vous appris au Conservatoire National d'Art Dramatique ? Est-ce qu'il y a un professeur qui vous a transmis quelque chose d'essentiel encore aujourd'hui dans votre carrière ?
Oui, c'est Philippe Adrien, que j'ai eu pendant 3 ans au Conservatoire. Ça paraît bête, mais il nous disait toujours que parler sur scène, ça n'allait pas de soi, que c'était pas, s'il n'y avait pas de mécanique là-dedans. Et donc ça m'est toujours resté, ça, que les mots ne doivent pas sortir comme ça, de manière mécanique. Ça paraît comme ça rien, mais il nous le disait d'une certaine façon et ça s'est inscrit en moi.
À propos de parler, dans votre manière de jouer, tous les deux, vous avez été aussi bien sur des planches que devant une caméra. On ne porte pas la voix de la même manière quand on a un micro ou quand on fait de la post-synchro que lorsqu'on est au théâtre. De la difficulté de porter sans fausser son jeu. Catherine, comment ça marche ?
Ben, c'est quand même un entraînement, ça s'appelle la technique. Et ça s'acquiert pas.
Mais on vous êtes
des fois.
Mais c'est la essentiel.
Comédie française, par exemple, c'est un des plateaux les plus difficiles que je connaisse.
Pour l'acoustique.
Il a une acoustique épouvantable. La Comédie française, c'est vrai. Et l'Odéon, malheureusement, depuis les travaux, l'Odéon, avant, quand on allait y jouer, c'était les vacances, parce qu'il y avait une acoustique géniale. Et depuis les travaux qu'ils ont fait à l'Odéon, maintenant, les spectacles, les acteurs ont des micros.
Mais c'est vrai que c'est sonorisé.
Et oui,
la majorité.
Et ça, c'est terrible.
Temps.
Et ça, pour vous, c'est pas où sont les grands acousticiens, mais ça manque au théâtre.
Et ça, pour vous, c'est la mort du théâtre que de mettre des micros aux comédiens.
Je suis pas folle. Je trouve qu'il y a une telle émotion dans la voix en direct. Il y a une telle émotion, même dans maintenant Avignon, tout le monde joue avec des micros. Il y a une telle émotion dans le plein air. Ça rejoint vraiment la naissance du théâtre. Il y a quelque chose, même si on s'en casse la voix, il y a une telle beauté que je regrette un peu cet emploi du micro à chef un peu systématique maintenant.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Une reprise, celle de Talking About Revolution. Baptiste.
You know, talking about a revolution sound. Don't you know, talking about a revolution sound. While they're standing in welfare lines, crying at the doorsteps of armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sound. Don't you even wanna rise up and take their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Don't you know you better run, 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 run. 'Cause finally the table is starting to turn, talking about revolution. 'Cause finally the tables are starting to turn, talking about revolution. Crying at the doorsteps of armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around win for promotion. Don't you know? Talking about a revolution sound. Poor people gonna rise up and take what's there. Poor people gonna rise up and take their share. Don't you know you better run, 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 run.
Le best-of sur France Inter.
Nous, on est prêts à affronter même les mauvaises choses qui peuvent arriver dans cette émission, notamment Daniel Morin, que voici. C'est un obstacle, c'est notre obstacle quotidien. Vas-y, obstacle. Ah, c'est le feuilleton.
Oui. En France, il existe un endroit où tout est merveilleux. Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde, pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire.
À France Inter.
Une saga quotidienne avec le dominateur Patrick Cohen, l'instable Augustin Trapenard, Nagui le Vicelard, Laetitia Gaillet, la journaliste recherchée par le FBI, mais aussi Laurence, la directrice qui en 1999 a eu une liaison amoureuse avec Jean-Marie Bigard. Mathieu, le grand patron le plus beau du monde et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire, France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter.
Enfin, en apparence.
Aujourd'hui, en l'honneur de notre invité, toute la grille de France Inter est consacrée aux artistes vivants, mais oubliés. Laurence, la directrice aux Mèches Rebelles, fait son petit topo.
Bon, aujourd'hui, on va pas être dépaysé, on va parler des artistes vivants, mais oubliés. Ceux dont vous parlez tous les jours qui retombent dans l'oubli le lendemain. Sauf qu'aujourd'hui, je veux de l'évocation de vraies vedettes, pas de demi-celles qui sont connues seulement dans leur immeuble. Compris, bande d'imbéciles ? Bon, je vous laisse. Je vais bruncher avec Patrick Sébastien.
Chez Nagui, l'ambiance est surréaliste. Dans un premier temps, il avait invité Hervé Villard, qui avait vu dans cette invitation l'occasion de signer un comeback. Après 3 tentatives, lors desquelles Nagui est obligé de plaquer au sol le chanteur pour l'empêcher justement de chanter, la 4e fut fatale au chanteur au moment où il entama le refrain de Capri, c'est fini. Un vigile lui tira une balle dans la jambe. Pour rattraper l'ambiance, Nagui fit appel à François François. Mais mal l'en prit. Quand Nagui demanda à François François un exemple de chanteur vivant mais malheureusement oublié, ça a tourné au vinaigre. Dites-moi, François François, c'est quoi pour vous l'archétype du chanteur vivant mais oublié ?
Pour moi, le meilleur exemple, c'est bien sûr, c'est Jérôme !
Mais enfin, il est mort, c'est Jérôme !
Mais non, espèce de con ! C'est Jérôme est immortel ! Écoute-moi ça !
Et tu danses avec lui !
Pour toujours, c'est Jérôme est vivant dans nos cœurs !
Oui, d'accord, mais il est mort !
Ta gueule !
De son côté, le très cultivé Augustin Trapenard, génie aux commandes de l'émission Boomerang, l'émission que tu crois qu'elle a une fin, mais toujours elle revient. Augustin a invité Jean-Luc Lahaye. Un Jean-Luc Lahaye très sympa, très drôle, mais qui instinctivement se mettait nu et sautait sur la vitre du studio quand il voyait passer une très très jeune stagiaire dans le couloir. Au 18e saut dans la vitre, le chanteur vivant mais oublié n'avait plus de dents et l'interview s'est arrêtée.
Oh, c'est ballot.
Plus pragmatique, Patrick Cohen, le roi du matin, l'empereur du lever de soleil, le Kim Jong-un de l'aurore, reçoit un invité politique oublié. L'émission se passe à merveille. Patrick est détendu. L'invité est drôle et généreux. Mais généreux car avant de partir, et pour remercier Patrick, il lui donne quelques conseils simples mais efficaces pour faire des économies. Une fois que Patrick eut terminé de noter tout ce que son invité venait de lui dire, il remercia chaleureusement Jérôme Cahuzac. Un peu plus loin dans l'émission, pour l'émission dans un studio, André Manoukian respecte la règle du thème imposé. Lui aussi, il reçoit Dev, chanteur presque vivant, mais malheureusement presque oublié lui aussi. L'interview tourne court malheureusement. André fait son speak d'intro en disant...
Aujourd'hui, je reçois l'homme qui a chanté la douleur de l'amour, la douleur dans les retrouvailles comme dans la séparation, un des rares chanteurs à avoir osé le cri en fin de prénom comme une déchirure dans l'obscurité de l'être tourmenté par la solitude, le fameux cri du Vanina ah 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 oh 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 ah ah ah. Bonjour Dave. Et là, au lieu de répondre bonjour André, Dave éclate de rire et lui dit « Mais il n'y a pas de message de souffrance dans Vanina, c'est juste que je savais pas quoi dire et qu'à cette époque, on pouvait dire de la merde. » Vexé, André Manoukian claque la porte du studio et de rage fait l'amour à une technicienne qui s'avérera être un technicien aux cheveux longs. Mon Dieu, quelle radio. Une fois encore, c'est dingue quand même. Une fois encore, le thème pourtant délicat était respecté par tous. Bref, aujourd'hui encore, à Radio France, un exploit a été accompli. Ça paraît fou vu de l'extérieur, mais cette journée de prouesse éditoriale, figurez-vous que c'est juste une journée ordinaire. À France Inter.
Merci Daniel.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
Des excuses à présenter, Daniel.
Oui, bien sûr, désolé pour Catherine qui a découvert ce matin qu'après avoir bossé à l'œil quand elle était enfant, elle se retrouve aujourd'hui nettement moins bien payée que Bruno Puzzulu. Ah ouais, il y a des destins comme ça. Ça me rappelle le mien. Désolé pour Volkswagen, Catherine a balancé, eh oui, elle a balancé ce matin dans l'émission que dans les années 90, il existait un modèle pas fonctionnel du tout, son nom, la Golf pourrie. Et désolé, non, pas désolé, mais merci, merci cette fois, merci à Nagui pour ce matin, cette exceptionnelle leçon de théâtre. Comment jouer la rapidité, le ça ping-pong dans un discours.
Mais non. Directeur, oui, quoi, où, là, parce que...
C'est génial, c'est énorme, vous êtes mon modèle, monsieur Guy. Félicitations, chapeau bas.
Mais tu sais, Catherine Géladi, elle sait reconnaître le talent. C'est pour ça que je ne jouerai jamais, mon gars. Je laisse ça à ceux qui savent faire.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Dans la bande originale de votre été, voici M, 7 R.
De sa main. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé.
Oui, pas et ne te retourne pas.
Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé.
Va et tu le retrouveras.
C'était M et la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec toute la bande.